BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, David Doba.
Le grand journal qui ouvre une page de sport ce soir donc en compagnie de Pascal Perry, économiste et dirigeant de PNC et consultant chez nos confrères et collègues d'RMC Sport. Pascal, on va revenir évidemment sur les événements de ces dernières heures. Cet événement, évidemment, c'est le retour, la reprise de la Ligue 1 que tous les fans de foot attendent, quoique d'ailleurs, parce que je dis fan de foot, on entend souvent dire que la Ligue 1, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle vaut pas les autres championnats européens. Est-ce que c'est du French bashing?
C'est un peu du French bashing. C'est vrai qu'il y a malgré tout un assez bon championnat. Je trouve qu'il a beaucoup progressé au cours des dernières années, notamment parce qu'il y a de belles affiches, il y a de grands clubs, il y a de belles marques maintenant qui s'affirment. Le Paris Saint-Germain, qui a une vraie stratégie de long terme. Vous savez, une entreprise, et on le dit sur BFM Business, elle a toujours une stratégie de long terme. C'est le cas avec le Paris Saint-Germain. Il y a une vraie stratégie de long terme également avec l'Olympique Lyonnais, la construction d'un grand stade qui va générer des revenus additionnels. Et puis, il y a quelques clubs qui s'affirment, Monaco notamment, avec quelques ambitions sportives. Alors, Marseille, c'est toujours un peu compliqué de dire où en est Marseille, surtout depuis maintenant 24 heures. Mais la qualité du spectacle proposé est plutôt bonne, à mon sens. Et il y a une vraie intensité concurrentielle en Ligue 1. Contrairement à ce qu'on dit, le titre n'est pas distribué à Noël, si vous voulez.
Alors moi, j'allais même être plus méchant, mais je pensais que le titre avait déjà été distribué là.
C'est ce qu'on dit.
Seule journée. Alors, je reprends les chiffres, comme 500 millions d'euros. J'ai arrondi, hein, parce que voilà, ouais. 500 millions d'euros de budget de fonctionnement pour le PSG. On est à 180 pour l'Olympique Lyonnais, on est à 140 pour Monaco, 120 je crois pour Marseille. Et puis alors après, on trouve Gazélec Ajaccio, 13,8 millions. Très franchement, alors double question. Je suis désolé. Hein, et puis j'ai rien contre le Gazélec Ajaccio, mais est-ce que ça n'est pas ridicule, tout simplement? Et est-ce qu'un club qui a 500 millions d'euros peut ne pas avoir le titre à la fin de l'année?
Bon, le football n'est pas une science exacte. C'est par définition un sport très aléatoire. C'est un sport dans lequel on peut faire jouer une équipe de quatrième division contre une équipe de première division
et
aboutir à une surprise. C'est vrai, mais y compris sur un championnat, on trouve parfois des choses un peu étonnantes. Maintenant, vous avez raison, il y a trois ou quatre championnats. Il y a un championnat avec Paris, 500 millions d'euros, qui joue plutôt la C1, c'est-à-dire la Champions League, qui a des ambitions européennes. Il y a deux, trois clubs qui forment le lot des poursuivants. Et probablement Lyon, probablement Monaco, vraisemblablement Marseille. Il y a les clubs historiques de Ligue 1, si vous voulez, les vieilles marques, la classe moyenne. La Ligue parle de classe moyenne de la Ligue 1.
Canal historique.
Oui, un peu ça. Et puis, il y a les clubs de Ligue 2 égarés en Ligue 1. C'est le cas du Gazélec d'Ajaccio. On aurait pu penser jusqu'à samedi que c'était le cas du SCO d'Angers. Mais on voit finalement que, je parlais d'intensité du spectacle, il y a une espèce de resserrement des valeurs quand même. C'est-à-dire qu'on arrive aujourd'hui à un championnat qui est relativement homogène, même s'il y a une équipe qui domine. Et ça, c'est bon pour les affaires, parce que quand il y a de l'intensité concurrentielle, ben, il y a toujours des surprises, il y a de l'intérêt. Et c'est quand même un sport qui repose d'abord sur l'intérêt du public. C'est un sport qui est fondé sur la demande. Il faut qu'il y ait une vraie demande qui s'exprime sur le marché. Et moi, j'ai l'impression que le public français retrouve un peu d'intérêt à la Ligue 1. Donc, il ne faut pas faire de French bashing, même dans le domaine du football.
Bon, donc tout n'est pas d'ores et déjà joué?
Si, sur le plan mathématique, sur le plan théorique, on va dire, Paris est au-dessus. C'est évident. Est-ce que pour autant Paris sera champion, et à quel moment, dans quelles conditions, ce sont les variables qui demeurent et sur lesquelles on n'a aujourd'hui aucune certitude.
Alors, l'autre surprise, en tout cas, c'est vrai que quand je me suis un peu penché sur la question, je me suis rendu compte, et je sais pas, je l'avais tout simplement loupé, que le championnat intéresse également des investisseurs. Alors, on va parler du public dans un instant, mais intéresse des investisseurs étrangers. Alors là, pour le coup, on est du côté de la Ligue 2. Avec des Chinois qui ont racheté Sochaux, tout simplement. Sochaux qui est passé sous pavillon chinois.
Oui.
Ça veut dire que l'image, mine de rien, de la Ligue 1 et de la Ligue 2, du championnat français, plutôt bonne, vu l'étranger.
C'est le dernier endroit où on peut investir. On peut plus investir en Allemagne. Il y a d'ailleurs des limites réglementaires, puisque les marques, les grandes entreprises ont une part limitée dans le capital des clubs allemands. On ne peut plus investir en Angleterre parce que le coût d'entrée est extrêmement élevé. On ne va pas en Italie parce qu'on ne connaît pas la comptabilité des clubs italiens. Les clubs espagnols, les grands, reposent sur le système des socios. C'est les clubs de la classe moyenne espagnole sont déjà investis. Il reste la Ligue 1 et il reste la Ligue 2. Sochaux est une grande marque. Il y a un intérêt direct avec un industriel de la région qui est le pourvoyeur historique de moyens de Sochaux, qui passe aujourd'hui sous pavillon chinois. Donc j'allais dire que c'était dans la corbeille de la mariée, donc je suis pas du tout étonné de voir des Chinois investir dans le football à Sochaux. Alors, mais la France est le dernier territoire où on peut connaître de vraies aventures capitalistiques dans le sport, dans le football. Mais nulle part ailleurs, si vous voulez. Le prix d'entrée, en quelque sorte, est encore à peu près acceptable en France.
Alors pardon, mais il n'y a plus que, justement, des investisseurs étrangers qui peuvent se permettre. On se rappelle de Monaco il y a 2 ans, on se rappelle évidemment du PSG.
Il
n'y
a pas d'investisseurs français. Citez-moi des investisseurs français.
Je vous pose la question.
Les entreprises du CAC 40,
là. Il n'y a plus d'investisseurs étrangers qui peuvent se permettre.
Non, mais les entreprises du CAC 40 n'ont jamais investi dans le football.
Pourquoi? Ça les intéresse pas?
Je crois que ça les intéresse pas. Ça a toujours été perçu comme une activité très populaire, mais plutôt mal gérée. Pas une industrie. Et les grands investisseurs investissent dans des industries. On n'investit pas, si vous voulez, dans un sport qui est professionnalisé. Il faut passer une étape pour que le football devienne un véritable territoire pour les investisseurs.
Les investisseurs s'intéressent au foot. Est-ce qu'à l'inverse, les clubs s'intéressent, eux, alors pas aux investisseurs, évidemment que oui, mais s'intéressent au public? C'est une question que je me pose depuis longtemps. Parce que quand je vois les conditions d'accueil du public, hormis quelques stades qui ont été refaits, je pense évidemment à Bordeaux notamment, hein, mais pas seulement, je me dis qu'il y a quand même encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de leçons à tirer de l'étranger.
Alors il y a des progrès qui ont été faits. Lyon, Bordeaux, les stades qui sont rénovés pour l'Euro 2016, mais les politiques de billetterie, le marketing, les 4 P, vous voyez, hein, le prix, le produit, prescription, etc. Enfin, tous les outils, si vous voulez, qu'on utilise dans le marketing, sont pas déployés dans le football. On continue d'ouvrir.
Comment ça se fait que ce sport, qui est quand même le plus populaire, le plus marketé, ne marche pas dans l'autre sens?
Parce que on a une vision pas tout à fait professionnelle de la billetterie aujourd'hui, parce qu'on n'est pas encore dans l'industrie du spectacle. Pour moi, le football, c'est l'industrie du spectacle. Parce que la perspective, l'horizon en quelque sorte des dirigeants de Ligue 1, c'est le samedi suivant. C'est un sport qui est télédépendant. Pour vivre, il faut toucher les droits télé. Mmh. Et pour toucher les droits télé, il faut rester en Ligue 1. Donc le seul horizon, si vous voulez, c'est le match du samedi suivant. C'est 3 points, 1 point ou 0. Vous voyez, ça se réduit à ça. Il n'y a pas de stratégie de long terme, sauf pour Paris, pour Lyon et peut-être pour Monaco. À Saint-Étienne, on vous dit clairement, l'objectif, c'est de remplir le stade. Quelles que soient d'ailleurs les stratégies de billetterie, quel que soit le prix auquel les billets sont vendus. C'est-à-dire, quand on parle dans des activités comme le transport aérien, de prix variable, de prix dynamique, vous voyez, c'est à peu près la même configuration de marché. La capacité est fixe, le produit est périssable, le marché est déséquilibré parce que la quantité de demande ne rencontre jamais la même, enfin la quantité d'offres telle qu'elle est proposée. Bon, on n'est pas passé à l'âge adulte, alors qu'en Angleterre c'est le cas.
Voilà, quelles seraient les leçons à tirer de l'étranger?
Utiliser les outils anglais, yield management, stratégie de prix variable, cross-selling sur Internet, digitalisation de la billetterie, et puis considérer que le spectacle commence pas au coup d'envoi, mais commence une heure avant, se termine une heure après, faire un vrai spectacle, un vrai show.
Faut appeler Guazzini au foot, c'est ça?
Oui, notamment, oui, c'est ce qu'il avait cherché à faire, effectivement, au rugby.
Et ça a plutôt marché,
d'ailleurs. Oui, ça a bien marché, ça a montré qu'il y avait un public pour ça. Et quand vous allez au Parc des Princes aujourd'hui, c'est beaucoup mieux qu'il y a 5 ou 6 ans. C'est-à-dire qu'on s'ennuie pas pendant la mi-temps.
C'est pas un concours de buts de gamins de 4 ans qui font que...
C'est plus le cas, plus tout à fait le cas au Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que faire participer les minimes de Crèvecœur en Gâtinais contre ceux de la Gipontoise, si vous voulez, ça représente un intérêt sportif moyen, y compris un intérêt marketing moyen. Oui, c'est vrai.
Bon, puisqu'on parle de foot, je ne sais pas si vous avez vu, j'imagine que oui, le prince Ali bin Al Hussein a enfoncé un peu plus le clou aujourd'hui en parlant de Platini. Alors là, on parle pour le coup de la tête de la FIFA, hein, en disant que, il le redit, cette organisation a besoin de 109 et que lui, en gros, fait partie du sérail. Quelle est sa stratégie à lui?
Sa stratégie, c'est de jouer la différenciation. C'est-à-dire, sa politique va consister dans les phrases que vous avez prononcées, sa stratégie, c'est de dire que en réalité, Michel Platini, c'est Michel Blatter. C'est la continuité. Il faut une vraie rupture. Et donc, il va profiter des difficultés rencontrées par la FIFA de la mauvaise image de la FIFA, des scandales, pour dire bah, il faut une vraie rupture. Et le candidat de la rupture, c'est pas l'ancien numéro 2. C'est pas celui qui a grandi dans l'ombre de Blatter. Le vrai candidat de la rupture, c'est moi.
Oui, mais en politique, on le sait, l'anti-personne ne fait pas un programme.
Bah écoutez, les présidents de la République sont souvent élus par défaut. Pourquoi pas cette fois-ci.
Des programmes quand même.
Alors Platini a un vrai programme, mais en même temps, il a un lourd handicap. Il est le représentant du football des riches et le football des pauvres, les confédérations notamment africaines, Afrique Caraïbe, etc. Toutes ces confédérations qui, en termes de voix dans un système démocratique pèse lourd, le considère comme le candidat des riches. Par conséquent, bah, il part avec un handicap et il faudra que Michel Platini puisse convaincre ses interlocuteurs, précisément, qui sera un président mutualisant, redistributeur, qui va doper le football. Je pense qu'il le sera. Et puis ça va dans le sens de l'histoire. Regardez l'interview du patron de la Première Ligue à l'Équipe Magazine ce samedi, Monsieur Scudamore, qui dit en substance, on est en train de vendre des droits en Chine, en Inde et dans les nouveaux territoires de la mondialisation, l'enjeu demain, c'est peut-être d'aller jouer une partie du championnat dans ces territoires. Donc vous voyez, on est à un point de rupture aujourd'hui dans l'économie du sport et dans l'économie du football. C'est-à-dire que peu à peu, le marché s'est dilaté, il y a de nouveaux acteurs qui sont là et dont il faut tenir compte.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure les droits télé, évidemment en foot plus que dans les autres sports, ces droits télé sont obligatoires pour pouvoir vivre. Les télés qui mettent de plus en plus d'argent, notamment poussés par beIN Sports, hein, qui cherche maintenant à mettre la main sur un paquet d'autres sports qui n'ont pas, notamment les championnats étrangers, championnats de foot étrangers.
Ils en ont déjà quelques-uns.
Ils en ont déjà quelques-uns, mais bon.
L'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Copa Libertadores, une partie de la Ligue 1, une partie de la Ligue 2, une partie du Championship anglais, un match tous les samedis après-midi, qui est la deuxième division britannique. On peut dire que c'est devenu la chaîne référente dans le domaine sportif.
Et combien de temps on recevait à cette même place, il n'y a pas très longtemps, Daniel Bilalian, après le Tour de France, qui nous disait que les audiences étaient excellentes, il y a plus de 7 millions de personnes, il y a eu des pointes à 7 millions de personnes. Combien de temps les chaînes de télé vont continuer de mettre sur la table des millions et des millions d'euros pour des événements qui, financièrement parlant, ne leur apportent quasiment pas grand-chose?
Mais ce sont les événements les plus populaires aujourd'hui. Vous venez de citer un chiffre qui est significatif. Qu'est-ce qui rassemble 7 millions de personnes toute une après-midi sur France Télévisions? Il n'y a que le sport. Le football, c'est exactement la même chose. Le rugby, c'est la même chose. Donc c'est le produit sans lequel on ne crée pas de revenus subordonnés. Si on fait une comptabilité analytique, effectivement, on dit, voilà, il y a tant d'investissements pour l'achat des droits, tant d'investissements techniques et en face tant de recettes publicitaires. Si en tout cas, on limite les recettes publicitaires au moment des rencontres ou au moment des compétitions, à l'évidence, le sport n'est pas rentable. Mais le sport est un véritable aspirateur à audience et il permet de générer des revenus ailleurs. C'est ce vers quoi d'ailleurs les chaînes doivent tendre, un peu sur le modèle américain.
C'est-à-dire ?
Beaucoup de publicité, beaucoup de revenus associés. En réalité, puisqu'on est dans
Les Français sont prêts à accepter beaucoup de publicité ?
Écoutez, ils l'acceptent de façon générale. Moi, je trouve que les Français ont évolué de ce point de vue. Alors, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait des arrêts comme... Il y a des sports qui s'y prêtent. Football américain, c'est très bien. Football américain, ça s'arrête toutes les 40 secondes. Donc, on peut mettre de la publicité toutes les 40 secondes.
Le basket, c'est pareil.
Le basket, c'est la même chose. Le football, non. Donc, il y a probablement quelque chose à inventer autour du football.
C'est-à-dire que les chaînes n'ont pas encore trouvé le business model de la diffusion du sport.
Le football n'est pas payé à son prix non plus, si vous voulez qu'on aille jusqu'au bout des choses. Un abonnement à beIN Sports avec l'offre dont on a parlé, là. Ligue 1, Ligue 2, championnat espagnol, italien, pour 11 euros. Et c'est beIN 1, beIN 2, beIN 3. C'est-à-dire que c'est un assemblage, aujourd'hui, c'est un pôle de diffusion de sport qui est inégalé pratiquement. 11 euros, c'est pas le prix, c'est pas le prix réel. Donc nous avons affaire à des opérateurs qui font de la soft diplomatie à travers l'audiovisuel sportif. On a calculé, Natixis a calculé que sur la base actuelle de ses abonnements, il y a 2,5 millions de personnes, ses coups de grille, entre 2012, à peu de choses près, entre 2012 et 2022, sur 10 ans, beIN Sports perdra plus de 2 milliards d'euros. Donc c'est une machine à perdre. Ce que Canal+ ne peut évidemment pas se permettre, n'étant pas engagé dans la même stratégie de soft diplomatie à travers l'audiovisuel.
Les 2 milliards, il les récupère comment quand même ?
Il les récupère pas, c'est un investissement. Il le considère comme un investissement. C'est-à-dire, le Qatar a besoin du Paris Saint-Germain, le Qatar a besoin des médias audiovisuels pour exister dans la mondialisation. On va dire dire que c'est la diplomatie sportive à l'écran de ces micro-États qui sont extrêmement riches aujourd'hui. Mais aucune chaîne ne pourrait se permettre de vendre cet abonnement à 11 euros, à son prix.
Diplomatie, justement, tiens, un mot des Jeux Olympiques. Est-ce que la France a réellement besoin et peut réellement, j'ai même aller plus loin, peut réellement se payer les Jeux Olympiques de 2024. Quand on voit, par exemple, que les Jeux Olympiques d'hiver ont été donnés à la Chine, apparemment, il n'y a que la Chine et le Kazakhstan qui en voulaient. On sait que les Jeux Olympiques, ça ne rapporte rien, là, encore, à un pays. Par rapport à l'investissement, ça rapporte quasiment que dalle.
Le problème du comité olympique aujourd'hui, c'est de trouver des candidats pour les Jeux Olympiques qui ne soient ni des régimes autoritaires, ni des dictatures. Et c'est vrai que les seuls... Ça rejoint la question de la soft diplomatie qu'on évoquait. Les seuls qui aient les moyens d'investir aujourd'hui massivement, ce sont des États qui achètent de l'image, qui achètent de l'exposition médiatique, qui veulent montrer qu'ils existent, qui sont capables d'organiser de grands événements, qui cultivent leur respectabilité, si vous voulez. Maintenant, sur votre question, est-ce que la France a besoin des Jeux Olympiques ?
Elle a les moyens de s'offrir.
La réponse, c'est non. La France a besoin de croissance et les Jeux Olympiques n'apportent absolument pas de croissance. Je ne crois d'ailleurs pas à l'idée de Jeux Olympiques best cost, je refuse d'employer le mot low cost, mais best cost à 4 ou 5 milliards d'euros. Toutes les expériences passées démontrent, de Montréal jusqu'à Athènes, à l'exception de Los Angeles, que les enveloppes ont toujours dépassé le devis, en quelque sorte. À Londres, on est passé d'un prix affiché de 3 milliards de livres à un prix réel de plus de 12 milliards de livres. Donc, on voit que les Jeux Olympiques qui rapportent, ça n'existe pas.
Merci beaucoup, Pascal Perry, pour vos explications ce soir sur BFM Business, donc économiste, dirigeant de PNC et consultant d'RMC Sport. Et quelque chose me dit qu'on va se retrouver dans quelques semaine sur cette même
avec
antenne.
Joie.
Merci beaucoup Pascal Pierry. Vous restez avec nous, on marque une petite pause sur BFM Business et puis juste après, on s'intéresse aux matières premières. C'est à suivre, à tout de suite.
BFM Business, un nouveau regard sur l'écho. Le grand journal, David Doba.
La canicule de juillet n'aurait pas fait tant de mal que ça aux cultures, notamment aux cultures de blé. C'est ce qui a annoncé en substance aujourd'hui le gouvernement, le ministère de l'Agriculture. On en parle avec vous, Benjamin Loubet. Je rappelle que vous êtes le directeur général, délégué de Prime Finance. On a beaucoup entendu parler, notamment au début de l'été, au moment où les températures étaient les plus chaudes, de cette canicule, de cette sécheresse, même c'est un mot qu'on a ressorti des placards, on nous a ressorti même des fantômes de 1954, de 1975, et finalement, voilà, le ministère de l'Agriculture nous dit non, rassurez-vous, la récolte de blé devrait être supérieure d'au moins 5 à 10% à celle de l'année dernière. En revanche, la situation est plus complexe sur le maïs. Intéressons-nous au blé d'abord. Comment l'expliquer? Parce que j'ai cru comprendre que, mais j'imagine que ça ne suffit pas, les terres cultivées avaient été augmentées. Est-ce la seule raison pour laquelle la récolte sera bonne cette année?
C'est aussi parce que, alors vous le disiez, on est effectivement dans une situation de sécheresse. Il y a 60 départements qui sont en restriction aujourd'hui sur leur consommation d'eau. Mais ce qu'il faut bien voir effectivement avec le blé, c'est que la récolte s'est relativement bien déroulée parce qu'elle est un peu plus en amont que la récolte de maïs, et donc finalement
que la sécheresse arrive sur la fin,
est arrivée sur la fin, voilà, et finalement n'a pas fait tant de mal que ça. Et là on voit même ça a permis d'accélérer les récoltes, et donc l'essentiel de la récolte est quasiment fait aujourd'hui, ce qui permet effectivement au ministère d'annoncer ces chiffres qui sont des très bons chiffres. C'est un record de production en France, on a dépassé le chiffre de l'année dernière, donc effectivement en France on a des très bonnes récoltes. Alors après là on a une vision un peu franco-française et très très centrée, mais au niveau international on peut dire que le marché du blé d'une façon générale va plutôt bien. D'ailleurs on l'a bien vu dans les prix,
Non,
il y a très très peu de tension sur les prix, c'est plutôt une bonne nouvelle. Rappelons-le, l'indice des prix de l'alimentation publié par le FMI et par la FAO est au plus bas depuis 6 ans. Ce qui est plutôt bon en termes de... Ça veut dire que les gens ont plus de facilité pour manger. On perd 13% sur cet indice des prix par rapport à l'année dernière. Donc on a plutôt une situation assez confortable. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, ça fait 2 ans de suite qu'on a... Alors cette année, c'est un peu particulier, mais les années précédentes, on a eu des météos très bonnes. Mmh. Et donc des niveaux de rendement records avec des surfaces semées qui étaient records. Et donc on se retrouve effectivement avec des stocks très importants. Et cette année, une récolte qui a un peu souffert effectivement... qui est en train de souffrir un petit peu pour le maïs notamment aux États-Unis, mais qui globalement à travers le monde va être stable voire en léger recul.
Alors en France, on parle quand même d'un repli de 30%, ça commence.
Alors oui, la France sur le maïs est beaucoup plus touchée. On a effectivement on a eu des surfaces moins importantes d'une part, et puis d'autre part, effectivement, on a eu des gros dégâts à cause de la sécheresse en France, en Europe d'une façon générale. Dans les autres pays, c'est moins le cas. On a eu aux États-Unis un peu de dégâts. Là, il y a eu des chiffres qui ont été publiés aujourd'hui. Effectivement, quand on regarde les images satellites infrarouges, on constate qu'effectivement, il y a eu aux États-Unis, en fait, il y a eu d'abord énormément de pluie. Mmh. Et puis ensuite de la sécheresse, et donc on ne sait pas encore bien jauger quel impact ça a. Mais enfin, il faut rester raisonnable. L'année dernière, on avait battu des records sur les rendements aux États-Unis, avec un rendement qui devait, si je me souviens bien, être aux alentours de 170 boisseaux par acre. Cette année, on attendait 168 boisseaux. On va être à 165. Donc on parle de 2% de baisse. Dans le même temps,
des fois, ça suffit à paniquer les investisseurs. Hein.
Oui, mais dans le même temps, vous avez une récolte en Amérique du Sud qui s'est très bien passée, avec notamment la safrinha au Brésil, qui est celle qu'on appelle la petite récolte, qui a été extrêmement extraordinaire. Donc, on a des très gros volumes. On avait des très gros stocks, comme je vous le disais tout à l'heure déjà, de report par rapport aux années précédentes. Donc, finalement, il n'y a pas vraiment de raison de voir des tensions sur ces produits-là. C'est un peu différent pour les oléagineux, parce qu'on a eu notamment sur le colza, qui est une culture qu'on suit bien en France, beaucoup de difficultés en Europe. Avec des volumes en très forte baisse, des surfaces en forte baisse, et également dans les autres grands pays producteurs, notamment le Canada, qui a connu des gelées terribles, tardives, qui ont fait beaucoup de mal aux récoltes, avant de connaître une sécheresse qui est venue rajouter un deuxième effet sur cette récolte déjà abîmée. Donc on a, au niveau des oléagineux, peut-être des tensions, et puis le gros facteur d'interrogation qui pose beaucoup de questions pour les matières premières agricoles, mais aussi pour les autres matières premières aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le phénomène El Niño.
On va y revenir. Juste un mot sur les oléagineux, pardon. On a entendu parler aujourd'hui même peut-être du retour des biocarburants. On sait que les biocarburants fonctionnent, donc notamment avec Yannick qui fonctionne au colza, et qu'à un moment on nous avait dit ouais, alors attention, prenez garde justement, parce que la demande devrait exploser et la production ne suffira pas et à nourrir et à faire des biocarburants. C'est une réalité.
C'est quelque chose auquel il faut prêter attention. Il faut savoir qu'aux États-Unis aujourd'hui, la production d'agrocarburants est le premier poste de consommation du maïs, avec quasiment 40% de la consommation de la production américaine qui est utilisée pour faire des agrocarburants. Donc effectivement, c'est un facteur qui est à surveiller. Maintenant, quand on est dans un contexte comme actuellement, où les prix du pétrole ont tendance à baisser, la demande d'agrocarburants a tendance à baisser aussi, donc c'est un petit peu moins vrai. Ceci étant, c'est effectivement un gros marché en développement dans les pays d'Amérique du Sud notamment, où énormément de transformation est faite pour faire du biocarburant.
Et la production pourrait être suffisante ?
Alors, si on se retrouve dans un marché qui est à la fois tendu sur les énergies et tendu au niveau croissance mondiale, avec une croissance mondiale soutenue, on peut se retrouver effectivement à un moment à avoir des choix à faire, mais il y a toujours des solutions de report, des différences. Ce qu'il faut quand même bien avoir en tête et qui est assez rassurant, c'est que aujourd'hui, le riz constitue l'aliment de base pour 50% de la population mondiale, et pas les plus riches, et que le riz ne sert pas aujourd'hui à faire d'agrocarburant.
Bien, alors vous avez cité un terme que l'on connaît, en tout cas on en avait beaucoup entendu parler il y a quelques années, puis il était un peu tombé, alors dites-moi si je me trompe, hein, mais j'ai un peu l'impression qu'il était tombé dans l'oubliette, ouais, dans désuétude, ce mot, c'est El Niño. Et là, cette année, on recommence à en entendre parler. Alors, c'est un phénomène cyclique, on est d'accord, il ne se produit pas tous les ans,
oui, c'est ça.
A priori. Qu'est-ce qui fait que cette année, on recommence à en entendre parler ? Le phénomène est plus important que les autres fois ?
Alors déjà, ces dernières années, on en avait moins parlé, parce qu'en fait, El Niño, ça veut dire le petit enfant, le petit garçon en espagnol. Ces dernières années, on avait plutôt les phénomènes La Niña, donc la petite sœur, qui était le phénomène inverse. Donc on en a moins parlé, et c'était un phénomène qui était moins gênant pour les récoltes. Donc on avait un peu passé tout ça sous silence. C'est quoi le phénomène El Niño ? C'est simplement un réchauffement de l'eau en surface dans le Pacifique, qui a pour conséquence de perturber un peu les courants et de perturber un peu les phénomènes d'évaporation de la mer. Et donc on se retrouve avec de la pluie aux endroits où normalement on n'en a pas, et puis de la sécheresse aux endroits où normalement on devrait avoir beaucoup de pluie. Donc c'est très perturbant pour la production de matières premières agricoles, mais aussi pour d'autres productions, on pourra peut-être y revenir après. Pourquoi on en parle plus cette année ? Parce qu'effectivement, le dernier gros phénomène El Niño, très perturbant, c'était en 1998, et aujourd'hui, les météorologues à travers le monde s'accordent à dire qu'on pourrait avoir un phénomène d'une ampleur comparable à celle de 1998, donc potentiellement...
Quelles étaient les
conséquences ?
Voilà, merci.
Alors, les conséquences les plus importantes, sont... essentiellement sur deux zones géographiques. Alors, enfin, on va dire trois zones. Il y a une conséquence très positive d'abord, c'est sur l'Amérique du Nord. Sur l'Amérique du Nord, ça amène un climat plutôt clément et plutôt favorable au bon développement des récoltes. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que c'est une grosse zone de production. Sur les autres grosses zones de production, vous avez l'Asie du Sud-Est, qui là, elle se retrouve avec davantage de sécheresse. Il faut savoir que ça arrive, là, on commence à en parler, au moment où la période des moussons arrive. Et donc, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir des moussons moins importantes. Des moussons moins importantes, ça veut dire quoi? Moins de riz. Ça veut dire aussi, potentiellement, moins d'huile de palme. Et aujourd'hui, l'huile de palme est quand même un élément très utilisé dans les oléagineux. Donc, il faudrait avoir des solutions de remplacement. Ça pourrait tendre un peu le marché des huiles, comme j'évoquais tout à l'heure déjà les difficultés qu'on peut avoir sur le colza aujourd'hui. Et ça a des conséquences ensuite sur l'Amérique du Sud, avec des intempéries assez terribles, notamment sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, ce qui entraîne plusieurs conséquences. D'abord, potentiellement des inondations et donc des fermetures de mines. L'Amérique du Sud est un gros producteur de minerais. Et puis, côté est, davantage de sécheresse et donc potentiellement des dégâts sur les récoltes de café et les récoltes de maïs au Brésil.
Dans un laps de temps de quoi ? Quelques semaines ? Quelques mois ?
Alors après, c'est là que c'est très difficile parce qu'on raisonne sur des bases statistiques qui sont finalement assez légères et l'ampleur du phénomène peut varier très fort. L'année dernière, à cette époque-là de l'année, on attendait un phénomène La Niña assez important et puis finalement, les choses sont rentrées dans l'ordre et on a quasiment pas eu de phénomène La Niña. Donc, a priori, on devrait avoir un phénomène assez marqué. Savoir combien de temps il va se prolonger dans les mois qui viennent, c'est assez difficile. Aujourd'hui, les spécialistes commencent à parler d'un phénomène qui pourrait durer pendant tout l'automne. Ça aurait d'autres effets, notamment sur le marché des énergies.
Ouais, j'allais dire, parce que dans ce que vous nous avez dit, il y a deux choses. Il y a effectivement le marché des matières premières, et puis il y a le marché énergétique. Il va falloir combler. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aura peut-être une moins forte demande en énergie, c'est ça ?
Alors, ça veut dire que, notamment, comme je vous le disais, sur l'Amérique du Nord, où on a une météo qui est normalement plus clémente, ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'attend effectivement à des températures moins rudes que ce qu'on peut connaître normalement à l'automne, et donc moins de consommation. Et donc, il y a des gens qui commencent à s'inquiéter pour ce que pourrait faire le prix du gaz. Alors, c'est très bon pour les industriels, mais pour les producteurs, c'est un vrai problème. Donc, ils commencent à regarder ça pour éventuellement mettre en place des couvertures pour pouvoir se protéger contre une correction des cours du gaz au moment de l'automne.
Il y aurait d'autres conséquences, évidemment, c'est l'effet papillon, hein, mais s'il y a des conséquences énergétiques, d'autres pays pourraient être touchés. Alors, pas spécialement climatiquement parlant, mais en tout cas par répercussion.
Oui, vous avez d'autres pays qui peuvent être touchés. Toujours dans le domaine des énergies, vous avez les pays d'Amérique du Sud qui sont des gros utilisateurs d'énergie hydroélectrique. Mais en Asie du Sud-Est, on l'avait déjà vu lors du précédent phénomène en 98. Vous avez des pays comme l'Indonésie qui se sont retrouvés avec des niveaux d'eau dans les rivières très faibles, ce qui empêche la circulation des barges pour transporter les minerais. Donc ça perturbe la production minière, mais ça perturbe également la production hydroélectrique, effectivement, et donc potentiellement la production d'énergie. Et donc besoin de compenser pour ces pays.
Les États-Unis, que peuvent-ils faire pour lutter? Ils vont se retrouver avec un stock, on sait qu'ils sont quasiment indépendants énergétiques. Parlant, que peuvent-ils faire du coup pour écouler leur stock?
Alors, ils sont pas indépendants énergétiquement, les États-Unis. Faut pas oublier qu'ils continuent à importer entre 5 et 6 millions de barils par jour. Alors après, ils réexportent effectivement, mais il y a un gros débat aujourd'hui qui se pose. Je replace juste le débat. Aujourd'hui, les Américains ont une situation énergétique qui est plus confortable parce que ils ont développé ce qu'on appelle les pétroles de schiste. Les pétroles de schiste, aujourd'hui, c'est une production d'à peu près 5 millions de barils par jour. 5 millions de barils par jour, c'est moins de 5% de la production mondiale de pétrole. Donc c'est important parce que c'est venu de rien. Donc pour les États-Unis, c'est très important, et notamment pour le marché de l'emploi. Les réserves prouvées aujourd'hui par le département américain, c'est 10 milliards de barils, ça fait 2 ans de consommation américaine. Donc les réserves sont aujourd'hui pas aussi importantes que ça. Donc il faut qu'ils se posent des bonnes questions. Aujourd'hui, le problème, c'est que il y a une grosse disponibilité tout de suite de cette énergie, ce qui fait baisser les prix. Et donc, les stocks ont énormément augmenté. Et donc, il y a un gros débat qui gagne en traction aux États-Unis, qui est le débat sur l'exportation de pétrole aux États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis ont une loi qui interdit l'exportation du pétrole qui est produit aux États-Unis. Le pétrole produit aux États-Unis ne peut pas être exporté avant d'avoir été raffiné. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les stocks de pétrole se constituent aux États-Unis, parce qu'en plus ce pétrole, sans rentrer dans les détails, est un peu spécifique, et donc les capacités de raffinage américaines ne sont pas faites pour traiter ce pétrole. Donc ils savent pas, ils savent pas trop quoi en faire. Voilà, ils savent pas trop quoi en faire et en plus ils ont pas le droit de l'exporter. Donc il y a des voix qui s'élèvent de plus en plus pour demander d'autoriser l'exportation du pétrole, de lever ce qu'on appelle le oil export ban, ce que les politiques se refusent à faire parce que si ça arrivait à un moment où les prix de l'essence remontaient à la pompe, politiquement c'est une catastrophe. Ce qui est assez paradoxal, parce qu'en fait, quand on regarde l'équation simplement, on se rend compte que, d'un point de vue purement logique, si les Américains autorisent les exportations pétrolières, ça devrait faire baisser les prix de l'essence. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce que si les États-Unis n'ont pas le droit d'exporter le pétrole, ils ont le droit d'exporter l'essence. Donc le niveau de prix de l'essence aux États-Unis est fixé en fonction du niveau de l'essence partout dans le monde. Donc s'ils ils autorisaient davantage de pétrole à sortir de leur pays, il y aurait davantage de raffineries qui pourraient fonctionner, donc davantage d'essence qui arriverait sur le marché, ce qui ferait baisser le prix. Mais on ne sait jamais si à ce moment-là, on sait qu'au troisième trimestre, c'est traditionnellement le moment où la consommation de pétrole augmente d'à peu près 1 million à 1,5 million de barils par jour dans le monde. Si à ce moment-là, on se retrouve avec un peu plus de tension sur le marché et que, alors que les États-Unis ont autorisé l'exportation de produits pétroliers, les prix de l'essence à la pompe remontent, le gouvernement Obama ne s'en remettra pas et son parti ne peut pas se le permettre.
Deux questions sur deux pays différents. D'une part, l'Iran. Et d'autre part, l'Arabie Saoudite. J'ai cru comprendre qu'en Arabie Saoudite, actuellement, il y a une réelle tension hein, également sur le pétrole. Et l'Iran, qu'est-ce que la fin de l'embargo, en tout cas l'assouplissement des mesures de restriction, peuvent changer ?
Alors, vaste question. L'Arabie Saoudite, aujourd'hui, dans une situation qui est relativement inconfortable, parce que ils ont beaucoup de réserves de change. Donc, ils ont une capacité à tenir les niveaux de prix bas actuels. Il faut savoir que, pourquoi je parle de ça ? Parce qu'en réalité, si on regarde l'équation, l'Arabie Saoudite produit du pétrole, ça lui coûte à peu près entre 5 et 10 dollars de produire un baril de pétrole. Donc on pourrait se dire, elle n'a aucun problème. Certes, mais quand elle fait son budget, l'Arabie Saoudite, elle compte sur un prix du baril à un certain niveau. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, le FMI l'a annoncé aujourd'hui, on s'attend à ce que cette année, le budget de l'Arabie Saoudite soit déficitaire de 20% du PIB. Donc, on a besoin de prix élevés. Simplement, l'Arabie Saoudite a fait le pari de dire, on va faire baisser les prix, ça va faire sortir des acteurs du marché. Ensuite, le prix n'en sera que plus élevé et donc on fera davantage de profits. On fait un sacrifice à court terme pour des bénéfices à long terme. Simplement, les autres pays de l'OPEP, eux, ne sont pas forcément dans la même situation et donc ont une situation à gérer qui est compliquée et potentiellement de très fortes tensions pourraient naître dans les pays de l'OPEP. Alors, l'Arabie Saoudite va pas pouvoir jouer à ça non plus éternellement parce que pour l'instant, elle compense donc avec ses réserves de change et puis avec la possibilité de faire des émissions obligataires. Elle a fait des grosses émissions obligataires récemment parce que l'idée, c'est simplement qu'elle a besoin de maintenir son budget pour pouvoir donner les aides sociales au peuple pour que le peuple ne se soulève pas. Il faut savoir que quand il y avait eu les printemps arabes, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'Arabie Saoudite avait échappé au printemps arabe parce qu'elle avait fait des aides d'État d'à peu près 20% de son PIB, ce qui avait permis de calmer tout le monde. Donc l'Arabie Saoudite est dans une situation qui est un peu inconfortable. Il va falloir que les choses évoluent favorablement. Elle avait, je pense, sous-estimé la capacité de résistance des pétroles de schiste. Voilà. Mais je pense qu'en deuxième partie d'année, le pétrole de schiste devrait commencer à ralentir.
L'Iran,
pour ce qui est de l'Iran, l'Iran est dans une situation aujourd'hui qui est doublement intéressante. D'abord, pour nous, c'est intéressant parce que ça ouvre des nouveaux marchés. Et donc, on a potentiellement des gros acteurs, des majors, notamment du domaine pétrolier, qui ont la possibilité d'ouvrir des nouveaux contrats et donc potentiellement des vraies sources de nouveaux revenus. L'Iran est également important parce qu'elle va là aussi avoir un impact sur le marché parce que même si la production de pétrole ne pourra pas être remise en état probablement avant mi-2016, les Iraniens avaient des stocks de pétrole d'à peu près 55 millions de barils.
Ils peuvent se retrouver sur le marché ?
Et ils ont commencé déjà. On était à 54 millions de barils estimés de stock. Aujourd'hui, il n'y a plus que 52 millions de barils. Donc, il y a déjà 2 millions de barils qui sont sortis. Et ça peut expliquer le regain de baisse des prix qu'on a pu voir sur le prix du pétrole.
Donc, alors, évidemment, éteindre le débat, mais a priori, les prix devraient continuer au moins de rester aussi bas.
Non, je pense qu'en deuxième partie d'année, on devrait voir les pétroles de schiste commencer à baisser leur production. On devrait voir
remonter naturellement.
Voilà, la consommation mondiale monter parce que saisonnièrement, on a une consommation plus importante à cette période-là. Et donc, on devrait commencer aussi à voir des pétroliers de schiste se mettre en faillite ou en tout cas être obligés de réduire drastiquement leur production, ce qui pourrait rééquilibrer le marché. Je rappelle juste 3 millions de barils de surproduction aujourd'hui, 1,5 million de barils de consommation en plus, je le disais, au troisième trimestre à peu près. Donc, il faudrait trouvé 1,5 million de barils à supprimer, ce qui pourrait se faire s'il y avait des difficultés sur les marchés de pétrole de schiste.
Et bien sûr, ça évidemment sur BFM Business. Merci beaucoup Benjamin Louvet d'avoir été avec nous. Merci pour vos explications, directeur général délégué de Prime Finance. Merci encore. Vous restez avec nous sur BFM Business. À suivre dans quelques minutes la librairie de l'écho avec Emmanuel Lechypre. Et puis, quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain midi et demi pour l'invité de BFM Business. Passez une très bonne soirée. À demain.